1, 2, 3, 4. Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django, votre rendez-vous hebdomadaire de vie à Lausanne. Trois sujets ce soir pour cette journée un petit peu spéciale, hein, on va le dire, puisque nous fêtons les 25 ans de la grève des femmes pour le droit à l'égalité notamment. C'était en 1991. On va d'ailleurs débuter cette émission avec Vivre à Lausanne et le retour sur cette fameuse grève d'il y a 25 ans. À 18h20, Daniel, nous tirerons le portrait d'une femme engagée, Mariella Muri.
En effet, Fabien, pour notre invité, militer, c'est une prise de conscience, un engagement, une arme collective pour dénoncer et dire stop à toutes sortes d'injustices et de discriminations sociales, raciales et de genre. Sa trajectoire nous permettra de comprendre comment naît une conscience féministe et d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur les raisons de cette mobilisation hier et aujourd'hui.
Ça a l'air très compliqué dit comme ça, mais je suis sûr qu'on va tout comprendre.
Absolument, avec Mariella Muri.
Ah bien sûr, avec Mariella Muri. Et puis à 7h20, nous passerons à cultiver Lausanne, toujours sur cette thématique du droit des femmes. Et puis ce soir, ben voilà, nous ferons une découverte littéraire. C'est même une proposition de la librairie Basta, un livre signé Annick Maheim qui s'intitule « Radieuse matinée ». Jean-Luc est allé à la rencontre de Annick Maheim, c'était hier, et on l'écoute dans quelques instants. Et puis pour conclure cette 59e émission, nous allons retrouver les mardis de Stéphane Venanzi, la chronique d'actualité culturelle dans la région lausannoise. Les 25 ans de la grève des femmes pour le droit et l'égalité, c'est notre thème ce mardi avec La Grève, Mariella Muri, Radieuse matinée, le livre de Annick Maheim, et les mardis de Stéphane Venanzi. C'est le programme de ce mardi 14 juin sur Radio Django. Émission à suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter sur radio.django.fm. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Aujourd'hui, le 14 juin 2016, nous célébrons les 25 ans de la grève des femmes. C'était en 1991. Des actions symboliques et des débrayages avaient été menés dans toute la Suisse avec de nombreuses revendications, notamment l'égalité salariale, et ce, 10 ans après l'inscription de l'égalité entre femmes et hommes dans la Constitution suisse. En 2016, la loi sur l'égalité salariale fête ses 20 ans, alors que nous sommes encore loin de la vraie égalité. Les femmes n'ont donc pas fini de lutter. Alors, avant de parler des défis actuels avec nos deux invités féministes de cœur et dans l'âme, nous allons nous replonger dans l'ambiance du 14 juin 1991 grâce à un morceau du journal du soir radiophonique de la RSR, actuellement renommé RTS.
Vous le savez, cette journée est consacrée à l'égalité entre hommes et femmes un peu partout en Suisse. Et la Radio Suisse Romande vous informe depuis ce matin des nombreuses manifestations organisées aux quatre coins du pays. Jacqueline Alouche, vous nous faites un résumé de ce qui s'est déjà passé.
Eh bien oui, un peu partout, les femmes ont donné la couleur du temps de ce 14 juin. Alors quelques exemples parmi d'autres, bien sûr, à Berne, et Pierre Anchoffa vient de nous le rappeler. À Berne, elles étaient près de 2000 cet après-midi à venir dire leurs mots sur la place fédérale et perturber l'arrivée des personnalités invitées à la journée. Journée des relations internationales à l'occasion du 700e. Dans le Jura, il y a eu des débrayages dans l'administration cantonale et puis près de 200 enfants ont dit « Allez, nous on s'occupe des ballons à distribuer ». À Neuchâtel, les cloches ont donné le top à la journée, elles ont résonné à 9h pile. Et puis à Fribourg, où deux magasins n'ont pas ouvert à l'heure habituelle, on a organisé dans le centre une fête de la solidarité. Et des pères ont mis la main à la pâte, c'est eux qui avaient l'œil aujourd'hui sur une crèche installée sous tente. Enfin, en Valais, il y a eu des pauses exceptionnellement longues, par exemple des infirmières. Et des femmes sont spontanément venues discuter avec les syndicalistes qui ont choisi pour cible les entreprises horlogères du canton, où la situation salariale des femmes est particulièrement précaire. Mais répétons-le, Nicole, il ne s'agit là que de quelques échos parmi de nombreux autres.
Oui, et nous allons poursuivre. Nos correspondants masculins ont suivi les manifestations dans les régions. Et nous allons commencer par le canton de Vaud avec ce qui s'est passé à Lausanne ce matin. Pierre Bavaud.
Les femmes se sont appropriées les rues de Lausanne aujourd'hui, avec de nombreuses manifestations éparpillées aux quatre coins de la ville. Trois exemples. 11h ce matin, devant le centre postal de la gare. L'Union PTT avait installé pour la grève une véritable petite plage, avec sable, parasol et chaises longues. Le personnel était invité à y boire un verre et à dialoguer durant la pause.
On fait une petite pause sauvage. Pour justement manifester, bien prouver qu'on fait la grève. C'est très bien, on s'y croirait, surtout avec la musique hawaïenne derrière. C'est dommage de retourner travailler parce qu'on a, les transats, on a la musique, mais notre travail A et B nous attend.
Présent également sur cette plage, quelques employés d'une entreprise voisine, entreprise où le dialogue n'a pas vraiment eu lieu ce matin.
Nous nous sommes réunis devant la machine à café. Et puis notre chef du personnel est arrivé, nous a dit qu'il avait compris que, ma foi, il fallait faire ça en dehors des heures de travail, qu'il fallait timbrer, qu'il n'acceptait pas qu'on fasse une petite revendication aux frais de la maison. Voilà, alors nous avions pris nos cartes dans le bras, nous avons timbré et nous sommes sortis.
Et toutes les femmes de votre entreprise ont fait ce geste ?
Non, environ 5% seulement. C'est tout, il y en a beaucoup qui ont peur pour leur place.
12h30, devant une bonne centaine de personnes, les femmes rebaptisent la place de la Palue.
Nous déclarons donc que cette place s'appelle pour aujourd'hui et pour toute la fête à Lausanne, place Clémence Royer, philosophe et économiste.
13h, place du Château. Les employés masculins de l'administration cantonale ont fait à manger pour leurs collègues féminins.
La nourriture était délicieuse, elle manquait de variété et surtout pas de dessert. Les messieurs ne sont pas habitués à nous apporter des desserts, on a quelques biscuits secs. Mais autrement, c'était très bon.
Nous allons nous rendre maintenant sur les hauteurs neuchâteloises, à La Chaux-de-Fonds plus précisément, une région où la lutte syndicale est une tradition, Alain Christen.
Oui, et on s'arrêtera à La Chaux-de-Fonds ce soir, où un comité du 14 juin est actif depuis 6 semaines déjà, avec l'ouverture d'une permanence.
Voilà pour cet extrait du journal du soir de la Radio Suisse Romande. C'était le 14 juin 1991. Pour en parler ce soir, nous accueillons Geneviève Derame. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur les ondes de Radio Django. Vous êtes une des animatrices de la grève des femmes cette fameuse année 1991.
Absolument.
Et puis à nos côtés également Melinda Chance. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du comité vaudois du 14 juin, travaillant à UNIA et militante à Féminista notamment.
Exactement.
Geneviève, tout d'abord, quelques peut-être réactions par rapport à ce moment d'archive qu'on vient d'écouter.
Alors c'est vrai que le 14 juin 1991, il y a un mouvement extrêmement large. L'appel à cette grève des femmes avait été lancé par des femmes de la région horlogère, ratifié après par un congrès de l'Union syndicale suisse en octobre 90. Mais la préparation réelle de qu'est-ce qu'on allait faire, qui allait faire quoi, etc., s'est fait par des groupes, des comités, des collectifs de femmes qui se sont constitués autour du slogan « Les femmes bras croisés, le pays perd pied ». Les féministes et les femmes syndicalistes ont joué un grand rôle dans la préparation de cette grève. Ici, dans le canton de Vaud, c'est un collectif Femmes en grève qui a fait cet appel. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'Internet, rien du tout. Donc on s'est loué une case postale à la poste, on a ouvert un compte de chèque postal, on a trouvé une copine qui avait un répondeur sur son téléphone, et avec ça, on est parti pour publier un petit journal d'information appelant les femmes à se préparer à cette grève du 14 juin avec un petit bulletin pour commander des cartes, des badges et le numéro de compte de chèque pour nous aider à financer tout ça.
Bon, puis les gens ont répondu, les femmes ont répondu présent.
Les femmes ont répondu présent, c'était extraordinaire. On a décidé 100 000 exemplaires de notre petit journal qui venait autour des 20 000 francs. On n'avait pas le début d'un franc pour payer. Et à la fin, avec toutes les petites sommes qu'on a reçues, eh bien on a réussi à financer notre campagne facilement. C'était très bien.
La grève ne semble pas avoir été suivie sur les lieux de travail, on l'entend dans l'extrait, 5% à peu près des travailleuses.
Oui, une des particularités de cette grève des femmes, c'est qu'elle concernait les deux aspects de la vie des femmes, c'est-à-dire autant la vie au travail salarié, que la vie au travail bénévole à la maison. Alors, au travail bénévole à la maison, dans les quartiers, il y a énormément de femmes qui se sont organisées pour suspendre la serpillière, le seau, le balai, etc., les instruments de cuisine aux fenêtres, pour marquer que ce jour-là, elles ne travailleraient pas. Elles ont discuté avec leur mari, leurs enfants, pour dire « demain, je ne travaille pas ». Et évidemment, il n'y avait rien à manger sur la table si le papa n'avait pas prévu quelque chose.
Tu allais faire les courses aussi ?
Faire les courses, je pense qu'elles avaient quand même un peu rempli le frigo avant, parce qu'on est toujours quand même précautionnés.
Ouais, prévoyant.
Mais c'était un aspect particulier de cette grève des femmes, c'est-à-dire que non seulement ça concernait le travail, le salaire égal, etc., mais également tous les rapports privés au sein de la famille, où les femmes fournissent, encore aujourd'hui, je dois le dire, un intense travail gratuit.
Mais alors, je fais un petit peu l'avocat du diable, hein, mais un intense travail gratuit, si on regarde basiquement, c'est les femmes qui mettent les enfants au monde, est-ce qu'elles ne devraient pas rester un peu à la maison aussi ? Est-ce que ce n'est pas une tâche qui, logiquement, leur incombe ?
Ouais, c'est une manière de naturaliser les problèmes, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont les femmes qui mettent les enfants au monde, mais il est quand même conçu dans la famille actuelle qu'ils sont éduqués par leurs deux parents. Hein ? Alors je conçois qu'il soit difficile pour les hommes d'allaiter, mais au-delà de ces premiers mois, je pense que le partage des tâches est non seulement possible, mais souhaitable pour limiter la misogynie qui risque de se développer lorsqu'on a seulement les femmes qui interviennent auprès des petits garçons en particulier, que ce soit à la maison, à la crèche, à l'écofontaine et ailleurs. Donc je pense que ce serait un progrès social que de pouvoir voir une vraie éducation des enfants par leurs deux parents. Mais pour ça, il faut diminuer le temps de travail de tout le monde pour que tout le monde ait le temps de s'occuper de la génération qui vient.
Bon, effectivement, on voit que c'est une lutte quotidienne. Bon, on parlait du travail à l'instant. Le temps de travail, est-ce que c'est quelque chose qui actuellement est accepté dans la réduction du temps de travail, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes ?
Aujourd'hui, on va plutôt dans le sens inverse, puisque les gens font des pellets d'heures supplémentaires, que les rapports de force sont défavorables aux salariés, etc. Donc on va plutôt à l'envers. Mais ça ne doit pas empêcher de dire que, dans le bon sens, pour la société, pour les générations à venir, pour les rapports au sein des couples et dans les familles, il serait nécessaire de diminuer le temps de travail afin que tout le monde puisse vivre comme il faut.
Et faire les tâches ménagères accessoirement. Cette journée de 1991, est-ce qu'elle avait permis d'obtenir des améliorations concrètes dans le droit de la femme ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment ressorti à partir de cette année ?
Alors je crois que cette grève des femmes a fait exploser au fond, à la face de tout le monde, les problématiques qui d'habitude sont cachées. Un des slogans qu'il y avait dans cette grève, c'était de dire « d'habitude on range ». Aujourd'hui, on dérange. Je pense que c'était un excellent slogan parce que les femmes ont effectivement dérangé. Elles ont dérangé dans le sens où elles ont souligné les différences de salaire. On a fini par avoir une loi sur l'égalité en 96. Elles ont dérangé parce qu'elles ont montré les discriminations dans la prévoyance vieillesse. On a fini par avoir le bonus, et le bonus éducatif et le splitting dans l'AVS à la fin des années 90, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les femmes, la rente de couple est payée moitié à l'homme et moitié à la femme, ce qui est assez pratique lorsque les gens sont divorcés, parce qu'autrement, les femmes se retrouvaient avec rien du tout. Ça a aussi été important, à mon avis, pour l'avènement de l'assurance maternité. Ça a été aussi important pour l'avènement de la dépénalisation de l'avortement. Donc je pense que cette explosion de 91 a permis de poser des problématiques dans la société qui ensuite ont trouvé leur chemin dans les instances parlementaires.
On parle avec vous, Geneviève Derham, de 1991, puisque vous étiez à cette époque-là, c'est un peu un grand mot, hein, cette année-là, hein, pour la grève. Quelles étaient les autres revendications ? Parce que vous nous citiez un slogan à l'instant. Qu'est-ce que vous aviez comme revendication à l'époque ?
Alors il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup parce qu'autour de l'égalité, on a toutes les problématiques qui ressortent. On avait la problématique avortement, contraception libre et gratuit. On avait la problématique le refus des violences faites aux femmes. On avait la problématique du partage des tâches ménagères et éducatives. On avait la problématique des droits des homosexuels et des lesbiennes. On avait la problématique, la possibilité de vivre selon les choix qu'on fait. Donc c'était extrêmement ouvert. Et je pense que certaines de ces revendications ont ensuite pu trouver des solutions politiques.
Melinda Chans, autour de la table avec nous, aujourd'hui, après, voilà, on vient d'en parler de 1991, aujourd'hui, quelles sont les entraves que les femmes veulent encore briser ?
Alors, contrairement aux idées reçues, on est loin d'avoir atteint l'égalité. C'est vraiment loin de ça. On est toujours, que ce soit en termes de partage des tâches domestiques, de soins aux enfants, aux autres personnes à charge, et rien qu'au niveau de l'égalité salariale, on est encore très loin. Donc les femmes se coltinent encore la double journée en étant payées moins que les hommes, toujours grave. On a aussi comme problème des filles et des femmes qui sont les principales victimes de violences dans la sphère privée, qui provient en général d'hommes proches d'elles. Les victimes de viols sont toujours encore tenues en partie responsables de leur agression. La contraception n'est toujours pas gratuite. Et les femmes ayant une vie sexuelle épanouie et libérée portent encore malheureusement une certaine forme de stigmate. Donc même si on peut penser que la situation s'est améliorée, on a obtenu une certaine égalité de droit, mais ces lois ne sont de loin pas respectées.
Bon, alors c'est vrai qu'il y a encore des nombreuses luttes actuellement avec la contraception, par exemple. C'est un élément qui est très important à vos yeux ?
Oui, évidemment, parce que...
Est-ce qu'elle devrait être gratuite pour tout le monde, pour toutes les femmes surtout ? Enfin, ça peut être que pour les femmes actuellement.
Pas que pour les femmes, mais peut-être de manière...
pour les messieurs.
Exactement. Comme ça, on pourrait thématiser le problème et dire il faut une contraception masculine ou féminine gratuite. Mm-hmm. On pourrait aussi imaginer que la pilule et les préservatifs soient gratuits.
On parle aujourd'hui, puisqu'on est le 14 juin 2016, 25 ans après cette première manifestation qui avait eu lieu en 1991. Quelles sont les revendications, les luttes mises en avant aujourd'hui, Melinda ?
Alors aujourd'hui, en 2016, on s'est un peu plus centré sur des thématiques liées au monde du travail. Malheureusement, on a moins abordé la sphère privée qui reste pourtant un enjeu capital, comme je viens de le dire. Mais cette année, donc, comme c'est les 20 ans de la loi sur l'égalité salariale est mise sur le devant de la scène. Aujourd'hui, on est encore à 15,5% d'inégalité entre femmes et hommes, selon l'Office suisse des statistiques.
Pour travail égal.
Pour travail à valeur égale, oui. Ah. Et puis, dans la continuité des actions qu'on a menées le 8 mars, on avait fait une émission d'ailleurs ici sur le sujet, le thème des retraites, de la réforme des retraites est abordé parce qu'elles sont gravement menacées pour les femmes, avec un âge de la retraite qui serait augmenté, le taux de conversion du deuxième pilier qui serait rabaissé. Et on a aussi profité pour mettre en avant l'initiative de l'Union syndicale suisse, AVS+, qui veut augmenter les rentes AVS de 10%. Elle sera votée le 25 septembre. C'est un enjeu capital pour les femmes parce que actuellement 38% des retraités ne touchent que l'AVS parce qu'elles n'ont pas cotisé suffisamment pour avoir le droit à un deuxième pilier par un salaire trop bas ou un taux de travail trop faible. Et c'est aussi important pour toute la société parce que si, par exemple, on avait l'égalité salariale, on pourrait avoir des meilleures cotisations sociales et il y aurait moins de problèmes de financement de l'AVS. C'est quelque chose qu'on oublie, mais c'est quelque chose de capital à dire aussi.
L'inégalité salariale, vous en parliez un instant, avec plus de 15% qui sont encore inégales. 20 ans après, comment ça se fait que ce soit encore aussi catastrophique que ça ?
Alors, même si la loi sur l'égalité est dans le fond peut-être pas si mauvaise que ça, c'était une loi qui était un peu trop fondée sur l'autorégulation pour les entreprises. Donc du coup, il n'y avait pas de contraintes, pas de contrôle ni de contraintes obligatoires. Donc du coup... On s'est dit, on laisse les entreprises faire, le patronat faire, et on voit 20 ans après que ça ne marche pas.
C'est comme si, dans la loi sur la circulation routière, on disait la vitesse est limitée à 120 km à l'heure sur les autoroutes et qu'il n'y avait pas de gendarmes.
Oui, puis si on peut rajouter quelque chose, c'est que, par exemple, rien que pour les amendes en ville, regardez le nombre de contrôleurs qu'il y a pour vérifier que tout le monde paye bien ses tickets de parking.
De stationnement.
Mais combien il y a d'inspecteurs du travail ou d'inspectrices du travail ?
Si on se réfère à quelques chiffres, Melinda Chans, on voit qu'entre 2012 et 2014, le taux est descendu de 18,9 à 15,1% d'inégalité salariale. C'est déjà une bonne nouvelle, ça a clairement évolué.
C'est des chiffres à prendre avec des pincettes. Une baisse en deux ans de 3,8%, c'est quand même considérable.
Ah bah dans quelques années, on a zéro.
Ouais, ça serait idéalement, mais vous avez vu comme la baisse était lente en 20 ans. Alors, à moins que les syndicats aient fait un travail formidable à hausser les salaires des femmes ou que le patronat se soit retrouvé soudainement très généreux, moi, j'y crois pas trop. Je pense qu'il y a... Il y a le problème de chiffres. Il y a déjà en 2012, l'Office suisse des statistiques avait changé son calcul. Cette année, ils l'ont peut-être refait. Et ça peut expliquer en partie cette importante différence de chiffres. Donc, il faut faire attention.
Alors aujourd'hui, on l'a précisé plusieurs fois, nous sommes le 14 juin, jour de grève, jour de commémoration, si on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qu'il y a comme actions qui ont été menées aujourd'hui à Lausanne, qui sont encore menées ce soir ?
Oui. Alors, on a tout d'abord accueilli les voyageurs du canton de Vaud dans les gares avec le syndicat Uniel, le syndicat des services publics, en distribuant un tract pour les informer des actions de la journée. Après, on s'est retrouvés ici, à Pôle Sud, parce que la météo était quand même encore assez mauvaise.
Je crois qu'on peut le dire, effectivement.
Voilà, on ne va pas trop parler là-dessus, ça va faire débat aussi. Et on s'est retrouvés pour un pique-nique et on a profité, pique-nique canadien, pour se remémorer les actions qui avaient été faites et puis aussi parler des combats d'aujourd'hui. Et après, on a un peu continué les discussions dans un café féministe toujours à Pôle Sud. Et on a aussi profité pour regarder des émissions de l'époque, dont un temps de présent de 1991.
Ah oui.
Très amusant.
Souvenir.
Voilà, il y a des discours qui font un peu mal à entendre, mais c'est toujours les mêmes aujourd'hui. Donc.
Vous étiez entre femmes pour militer pour la cause des femmes?
Il y avait quelques hommes aussi, mais c'est vrai que majoritairement, c'est des femmes. J'aimerais bien que les hommes prennent en considération plus le combat féministe, parce qu'ils ont aussi un intérêt là-dedans. Quand les femmes se libèrent, ça libère aussi les hommes. Disons que la liberté qu'on obtient, on la partage. C'est quelque chose d'émancipateur.
En 1991, Geneviève Darrem, que des femmes aussi?
Non, il y avait aussi des hommes qui avaient aidé. Évidemment, pour lancer les choses, pour décider d'y aller, pour oser et tout, il fallait les femmes. Mais une fois que le mouvement était parti, les messieurs sont arrivés, ils ont dit, mais non, nous, on va vous faire à manger pour midi. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ah oui.
Vous voyez des hommes qui repassent, par exemple, en pleine rue pour marquer leur volonté de partager les travaux domestiques. Vous voyez des hommes qui s'occupent d'une série de petits-enfants de 2-3 ans, comme ça, parce qu'ils remplacent les femmes de la crèche qui, elles, sont à la grève des femmes. C'est les papas des enfants qui sont là. Donc, il y avait eu une vraie participation aussi d'un certain nombre d'hommes, et il y avait eu une quantité de sarcasme de la part d'autres hommes sur les femmes, l'état du monde, le fait que les femmes sont des femmes et les hommes sont des hommes et qu'on ne peut pas changer ça. Mais enfin bien, tout ça était modérément intéressant.
Bon, on voit qu'il y a quand même eu une certaine évolution, en tout cas dans le positif, en 25 ans. Merci beaucoup, Geneviève Darrem. Je rappelle que vous êtes une des animatrices de la grève des femmes en 1991. Et puis merci à Melinda Jans, membre du comité vaudois du 14 juin, travaillant à l'UNIA et militante à Féminista. Et puis, pour se quitter, on va écouter un extrait que vous avez choisi, Geneviève.
J'ai choisi un extrait de ce qu'on appelait l'hymne du mouvement de libération des femmes, le MLF, qui, dans les années 70, s'est créé dans la suite de ce mouvement incroyable de la jeunesse des années, la fin des années 60, et qui a été l'explosion, au fond, d'une prise de conscience féministe extrêmement importante, qui a donné la chanson que vous allez entendre.
Et ben c'est parfait, on termine avec ça pour fêter ce 14 juin. Merci beaucoup, mesdames.
Sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Debout, asservis, humiliés les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 debout.
Radio Django, la rose des vents.
Dans le cadre de cette journée consacrée aux 25 ans de la grève des femmes de 1991, nous continuons dans la rose des vents, Daniel, avec une autre invitée qui milite depuis plus de 50 ans. On dirait presque que c'est une vocation.
Presque. La trajectoire de notre invitée nous permettra de comprendre comment naît une conscience féministe et d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur les raisons de cette mobilisation hier et aujourd'hui. Un combat qui doit être collectif et qui s'adresse à toutes les femmes et tous les hommes solidaires, sans distinction.
Sans distinction, là, je ne suis pas sûre de bien comprendre.
Alors, je m'explique. Lors de la préparation de ce sujet, je pensais me centrer sur la participation des femmes migrantes à cette journée du 14 juin 1991. Or, on me rappela vivement que cette journée de grève et de mobilisation concernait la défense des droits des femmes et l'expression de la colère pour dénoncer les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Or, la défense de l'égalité salariale et l'obtention d'une meilleure loi sur l'égalité au cœur de cette manifestation commençait par éviter de faire une distinction entre les origines de femmes, et le combat amorcé en 1991 englobait toutes les femmes avec un grand F.
Alors, pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Mariella Muri. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur les ondes de Radio Django. Vous êtes psychopédagogue, ancienne assistante sociale et responsable de la formation continue au service de protection de la jeunesse. Vous avez aussi travaillé comme collaboratrice scientifique à l'IDEAP, l'Institut des hautes études en administration publique, et même à la Croix-Rouge. Un joli pédigré, hein. Vous étiez à la Croix-Rouge comme responsable du premier centre d'accueil des réfugiés du canton de Vaud. C'était à Vidy, et ceci depuis 1981. Vous étiez la première élue d'origine colombienne au conseil communal et ancienne députée au grand conseil vaudois. Vous avez effectué plusieurs mandats politiques et associatifs. Vous vous êtes engagée sur plusieurs fronts: accueil de réfugiés, protection des jeunes, politique familiale, formation, intégration des immigrés. Et votre combat s'illustre notamment par vos différentes initiatives parlementaires et la lutte pour l'égalité et promotion des droits des femmes. Vous avez été plusieurs années présidente de la commission égalité du PSV, le Parti Socialiste Vaudois, et membre du comité directeur. Et vous occupez aujourd'hui le poste de déléguée des femmes socialistes à la coordination du Parti Socialiste Suisse. Quel était alors votre principal cheval de bataille durant toutes ces années, Mariella Muri?
Bien, il y a eu effectivement plusieurs, mais...
Une cavalerie de chevaux de bataille.
Et c'est difficile de synthétiser ici, mais c'est vrai que j'étais hyper surprise de savoir que depuis plus de 50 ans, les femmes de ce pays attendaient une assurance maternité, et cette attente, ça m'a énormément frappée. Et c'est vrai que la lutte pour une véritable assurance maternité, c'était déjà mon premier, si je pourrais dire, premier engagement comme ça, politique et national, parce que c'était une lutte nationale qu'on a dû mener depuis plusieurs années.
Un combat qui reste emblématique. Travail Suisse, organisation fêtière nationale, vient de lancer une initiative populaire fédérale pour un congé de paternité raisonnable en faveur de toute la famille. Est-ce que vous allez soutenir cette initiative?
Oui, naturellement, on va la soutenir. Mais il faut dire que déjà, en 1993, les femmes militantes, syndicalistes, camarades socialistes, y compris, on avait lancé un manifeste pour une véritable assurance maternité, dans lequel on inclut également déjà un congé parental de 3 semaines. Nous avons lutté pour le congé de 16 semaines, mais déjà à cette époque-là, on a inclus le congé parental.
Mais quels étaient les principaux arguments qui vous ont permis de défendre ce projet qui s'adressait particulièrement aux employés de l'État?
Oui, là, c'était le projet, la motion que j'avais mise. Vous vous référez à une motion qu'effectivement, dans toutes ces luttes qui continuent et qui va continuer, mais Mais mon espoir, c'est qu'un jour, on puisse gagner nos luttes et qu'on puisse se reposer. Hein, ça, c'est clair. Mais c'était effectivement la motion par rapport au congé parental, que paternité, que j'avais déposée en 2006, si je ne me trompe pas. Et puis,
Nicolas Mattenberger.
Et avec Nicolas Mattenberger, parce que je trouve que dans les luttes, c'est bien. J'essaie de chercher toujours la parité et puis je me suis associée effectivement avec lui pour qu'on la dépose ensemble, d'ailleurs soutenue par beaucoup de collègues députés. Et puis, malheureusement, elle était refusée en 2008 avec des arguments que aujourd'hui, j'ai pas envie de répéter les arguments de la droite parce qu'ils m'ont fatigué au Grand Conseil. Aujourd'hui, je vais pas fatiguer les gens qui nous écoutent avec des arguments de l'UDC qui continuent à être les mêmes.
Parce que vous pensez, si on fatigue les gens se lassent, ils votent contre. Vous pensez que les gens votent contre si on les fatigue?
Non, je crois qu'ils vont pas être contre. Il y a des raisons plus importantes que cette fatigue pour c'est des raisons structurelles du système capitaliste dans lequel on vit et puis du système patriarcal qui gère non seulement la Suisse, ouais, mais le monde entier depuis des années.
Mais finalement, dans ce combat concernant l'assurance maternité, on se rend compte que les hommes deviennent un petit peu solidaires. Par la force,
oui,
des choses.
Oui, naturellement, parce que vous me posez la question quels étaient aussi les arguments. Pour moi et pour nous, toutes les militantes, l'accueil d'un enfant est une responsabilité.
Partagée.
Partagée. Absolument. Et puis c'est surtout aussi le fait qu'eux, ils doivent assumer aussi les responsabilités en tant que père, décharger aussi les femmes que pendant des années, ils ont assumé beaucoup de choses. Et puis, pour nous, c'était aussi très important, surtout les développements et les bons accueils de l'enfant. Il faut dire que c'est prioritaire tenir d'abord aussi ces bons développements de l'accueil dans la vie d'un couple ou d'une famille monoparentale. Ou, voilà.
Et dans cette évolution, donc, les deux parents, en fait, ont une place fondamentale. Mariella, vous militez depuis plus de 50 ans pour le droit des femmes. Pour Francine Dupanloup, une femme engagée dans le féminisme, qui a entre autres été très active dans l'organisation de la grève des femmes du 14 juin 1991, tout a commencé par un livre. Voici un court extrait du documentaire de Carole Roussopoulos, Debout, une histoire du mouvement des femmes, 1970-1980, dans lequel elle témoigne.
Au fond, j'ai été féministe au terme d'une belle journée de printemps, parce qu'une enseignante avait eu le bon goût de me donner le livre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. J'avais 14 ans. Et j'ai été dans un grand champ pour le lire, pour m'isoler, parce que j'avais l'impression que c'était un événement. Je le sentais. Et à la fin du week-end, d'avoir lu ce livre, j'étais transformée. J'avais tout compris. J'avais compris le monde. J'avais surtout mis des mots sur les situations que je trouvais étranges, des injustices que j'arrivais pas bien à capter, des choses que je ressentais toute petite déjà. Et je me suis, au fond, réveillée au féminisme comme ça, au terme d'un beau week-end. Et ce livre de Simone de Beauvoir m'a jamais quittée.
Comment est née votre conscience féministe?
Oui, tout d'abord, je crois que c'est au sein de ma famille. Une famille très soumise, mais avec un père très patriarcal, très responsable, très travailleur, respectueux, mais aussi très autoritaire. Et une mère très intelligente, très humaine, très engagée à sa manière dans l'Église catholique, à l'époque, et aussi dans la solidarité, que ce soit dans les quartiers, que ce soit pour les prisonniers, pour les prisonniers, etc. Et c'est vraiment là où je trouve que c'est dans ce contexte, au sein de la famille, que est née cette première conscience féministe, que pour moi, c'est cette prise de conscience, d'un engagement pour changer quelque chose. Et c'est vrai que je me suis engagée à plusieurs reprises là-bas. Et à 14 ans...
Vous avez, oui, très jeune, vous avez commencé à vous engager.
J'ai commencé à 14 ans. Je me rappelle qu'effectivement, on a fait une mobilisation, une grande marche de plus de 10 kilomètres, c'est tout petit pour nous, c'est vrai que c'était énorme, pour nous opposer au changement de la directrice du collège qui était changée. Et on avait les rumeurs de que c'était un homme qui allait être nommé. Et c'est vrai que c'était mon premier, si vous voulez, combat avec les collègues de classe de troisième année de collège et avec le soutien des associations de parents d'élèves dans lesquelles ma mère était aussi très active.
Et après ce combat, vous avez été vers d'autres combats, je veux dire dans d'autres univers qui ont été encore plus engagés.
Oui,
peut-être plus difficile,
difficile de synthétiser. Je suis venue ici à l'âge de 31 ans.
Mais avant ça, le dernier combat que vous avez mené en Colombie, cadre universitaire.
En Colombie, c'est vrai qu'on s'est battu pour l'éco-gouvernement à l'université. Et ça veut dire pour qu'il puisse avoir une représentation tant des enseignants comme des étudiants au conseil de direction, qui étaient toujours prises par les partis politiques qui se tournaient les pouvoirs. Et presque tout ça dépendait du gouverneur, de ce que les partis soient conservateurs ou libéraux à l'époque. Et c'était un fort engagement. Et idem au niveau des associations des enseignantes. Nous avons pu faire une grève. Et c'était la grève la plus longue des enseignants, je crois, dans l'histoire syndicale, en tout cas en Amérique latine, 9 mois, et toujours avec la solidarité, non seulement à l'interne du monde associatif, des autres syndicats, mais aussi avec la solidarité internationale. Et une grève que c'était même pas pour une augmentation des salaires, c'était contre un système éducatif qui allait être imposé avec toute l'affluence, naturellement, à l'époque des États-Unis.
Et c'est suite à cette grève que vous décidez donc de venir vous installer en Suisse ?
Non, pas du tout.
Pas tout à fait.
Je suis venue ici, voilà, par amour. Je suis mariée en Suisse, le père de ma fille. Et on pensait venir seulement pour une année, me montrer l'Europe, me présenter à la famille. Et puis, c'est clair que c'était l'année 75. Et quand nous sommes arrivés ici, on a voulu connaître d'abord, par exemple, les pays de l'Est. On a visité en voiture, savoir qu'est-ce que c'était les mouvements socialistes pour lesquels on s'est battu là-bas, dans un pays dans lequel il régnait tant d'injustices. Et puis voilà, il y a eu des constatations que...
Et vous avez continué ce voyage, mais toujours dans la même philosophie.
Que, voilà, il y avait des constatations qu'on a continué qu'il fallait continuer à s'engager.
Vous décidez de vous installer en Suisse, vous découvrez un pays, des paysages, ces gens, et son fonctionnement au prisme des rapports hommes-femmes. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ?
À mon avis, c'est l'effet que, voilà, d'abord, ça m'a frappé en arrivant au niveau de la démocratie ici, la défense des droits humains aussi.
Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a choqué dans le traitement des femmes en Suisse ?
Ah, mais écoutez, effectivement, une certaine lenteur dans les luttes. Dans les réponses, dirais-je, du politique, une réponse aux luttes féministes et puis aux luttes sociales. Et puis aussi, peut-être, le fait que j'ai fait la constatation de que l'engagement politique, y compris l'engagement féministe, est le résultat de ce monde qu'on vit, et puis qu'effectivement, toute cette discrimination reste universelle.
Et lors de la grève du 14 juin 1991, vous décidez en fait de participer et d'organiser en fait la grève qui a lieu au bâtiment administratif de la Pontaise. Quel est votre plus grand souvenir de cette journée d'action, plutôt originale ?
Écoutez, d'abord, on n'organise jamais une lutte collective au sol. C'était une organisation nationale. Et il y avait les commissions en gestation qui étaient créées, mais c'est vrai que les syndicats étaient très présents. Et au BAP, il est clair qu'on a été très, on s'est beaucoup mobilisé, on a tendu la lessive, on a créé des chansons, on a débrayé, on a même changé les photos des ministres de la justice de ce canton. Qui étaient tous des hommes, naturellement. Et on les a changés même d'une manière assez clandestine, il faut dire, même par des photos des femmes engagées, comme Simone Veil, Yvette Diaghi, entre autres.
Et au cours de cette journée un peu folle, qu'attendiez-vous à l'époque, en fait, de ces actions ? À l'époque, je dis bien.
La journée était très chaude.
Mais qu'est-ce que vous attendiez ?
Incroyable.
Les résultats escomptés.
C'était magnifique.
Une journée de folie.
C'était un plaisir incroyable. Et on luttait naturellement pour l'égalité des salaires, salaire accompli égal pour une femme, salaire égal pour les hommes et naturellement pour la concrétisation de la loi sur l'égalité.
Bon, finalement, vous avez les mêmes revendications que maintenant, 20 voire 25 ans après. C'est toujours les mêmes luttes.
Ouais. Mais, ouais, malheureusement. Malheureusement. Et je reviens à ce que je disais. La lenteur ici.
Ouais. Les gens sont un peu. La Suisse n'est pas pire qu'un autre pays. On a un pays qui est relativement ouvert, où les choses peuvent se faire. On a un droit de parole.
Ah non, naturellement. Et au contraire, il y a beaucoup de choses qui sont avancées ici. Mais il y a quand même que les femmes ont dû attendre 50 ans. Au plus, pour avoir une assurance maternité, quand c'est un droit, c'est toutes ces lacunes du service public et de la montre des entreprises au niveau des acquis des sociaux. Et puis, vraiment, c'est vraiment à presque refaire une autre grève, mais pas seulement les femmes. Toutes les citoyens et citoyennes de
Il
ces pays,
rester solidaire dans
parce
ça.
Que des citoyens, parce que la régression, elle est énorme.
Mais
Mariela, à mon avis,
faut-il être féministe pour s'engager ? Ce sera notre dernière question.
Non, je crois qu'il faut être
solidaire.
Il faut non, je crois qu'on devient féministe en s'engageant, que soit au sein de la famille, que soit dans la place de travail, que soit dans les mouvements politiques. Je crois qu'on devient féministe en s'engageant.
Et les hommes deviendront féministes aussi.
On le souhaite, on en reparlera d'ici quelques années. Merci beaucoup, Mariela, d'être venue nous parler ce soir de cette thématique de féminisme et de votre expérience personnelle. Et on retiendra votre dernière phrase, s'engager et devenir féministe.
Merci à vous, et puis bonne continuation à Radio Django.
Merci beaucoup et puis merci à Daniel pour la préparation de ce sujet. Et puis on termine cette chronique avec un petit extrait musical, une archive qui a été retrouvée par Mariela, un titre composé par Marie-Joëlle Eby, ancienne collègue du SPJ et militante féministe de Copenhague à Bornéo, un titre d'anthologie pour toutes les femmes engagées.
De Copenhague à Bornéo, ou de Lausanne à Santiago, et de Berlin à Tombouctou, quand les femmes bougent, le monde bouge. C'était Clara Zetkin, Flora Tristan, Rosa Luxembourg, 1910 à Copenhague, elles étaient là, pour toi, pour moi. Avoir des droits, avoir des chances, un tant soit peu de liberté, et pouvoir prendre la parole, avoir des enfants désirés. Penser projet, penser métier, gagner sa vie tout simplement, avoir sa place dans ce monde-ci, et pas toujours compter pour beurre. À Copenhague, à Bornéo ou à Lausanne, à Santiago et de Berlin, à Tombouctou, quand les femmes bougent, le monde bouge. Au fil des ans, mais lentement, les lois se sont mises à changer. On pouvait croire que dans la vie, les choses aussi allaient changer. Mais comme l'on dit, les filles de mai, dans notre tête et dans celle des mecs, il y a tout qui doit se remixer pour bien pouvoir se mettre en place. De Copenhague à Bornéo ou de Lausanne à Santiago et de Berlin à Tombouctou, quand les femmes bougent, le monde bouge. C'est aujourd'hui le grand moment de pas laisser tomber les bras à ceux et celles qui nous gouvernent. Rappelons-les à leur devoir. Comme l'ont fait Emma, Émilie, Lina, Sophie, Pauline ou Perle, tenaces, endurantes et créatives, nous sommes là, oh oui, bien là. De Copenhague à Bornéo ou de Lausanne à Santiago et de Berlin à Tombouctou, quand les femmes bougent, le monde bouge. Merci à vous toutes, femmes de l'ombre bien célèbres. Avec vous ici ce soir, nous sommes fiers d'être femmes. De Copenhague à Bornéo ou de Lausanne à Santiago et de Berlin à Tombouctou, quand les femmes bougent, le monde bouge.
Radio Django, culture.
À 18h46, on passe à Cultiver Lausanne et une découverte littéraire de la librairie Basta. C'est avec toi, Jean-Luc.
Aujourd'hui, pour cette émission dédiée à la grève des femmes de 1991, nous accueillons Annick Mahin, écrivain.
Bonjour.
Radio Django avait déjà parlé de votre livre dans la rubrique mensuelle présentée par la librairie Basta au mois de mai. Nous y revenons aujourd'hui à l'occasion d'un événement organisé par la même librairie autour de la grève des femmes du 14 juin 1991. Votre dernier livre, Radieuse matinée, est paru aux éditions de l'Air. En 2016, parle d'une période importante de révolte, de changement. C'est la secousse de mai 68, avec une inspiration claire. Changer le monde, changer la vie. À cette époque, vous décidez de rejoindre la Ligue marxiste révolutionnaire trotskiste et vous participez au mouvement de libération de la femme. Le livre est truffé d'anecdotes, d'émotions, de sentiments, de coups de gueule qui forment une mémoire saisissante. Une histoire subjective de la gauche radicale à Lausanne, comme le dit si bien Camilla Chiora de la librairie Basta. Alors comment est venue l'idée de ce livre? Comment ça s'est déroulé? Comment ça s'est passé?
Il faut préciser que c'est un livre autobiographique. Donc j'assume ce que j'ai vécu en tant que je. Je ne veux pas le faire assumer à tout le monde. Mais par contre, il y a quand même un assez gros entourage de contexte. Et je m'aperçois maintenant avec les réactions des lecteurs que c'est un livre qui a quand même un côté générationnel. Les gens qui ont traversé ces années 70, si agités, si pleines d'espoir, s'y retrouvent. Et donc l'idée, moi, c'était même beaucoup plus qu'une idée, c'était une colère qui m'est venue, entendant des politiciens de droite accumuler les falsifications sur cette période. Tout ce qui va mal dans le monde serait venu de mai 68, y compris la pédophilie. Là, je me suis dit, quand j'ai entendu, à force d'entendre des choses comme ça, après ces 30 années où finalement le balancier est revenu un peu à droite et où on a traversé une période d'ultralibéralisme avec une très très forte présence de la droite un peu partout en Europe, que moi j'avais envie au moins de faire mon petit job à moi, c'est-à-dire de témoigner de cette période et par les acteurs eux-mêmes et raconter ce que c'était que nos espoirs et nos combats, voilà.
Et vous parlez aussi en 1980 du déclin des organisations de gauche, suite quand même à à des révolutions avortées, à voilà, justement, à toutes ces questions-là.
C'est beaucoup plus que des révolutions avortées, c'est des révolutions assassinées. Je pense qu'un des très gros coups pour nous a été l'assassinat d'Allende au Chili le 11 septembre 1973, alors que c'était un espoir. On avait une gauche élue, mais très radicale, qui était venue au pouvoir dans ce pays. Il y a eu la révolution des œillets au Portugal, où finalement, après avoir démoli la dictature de Salazar, qui était au pouvoir depuis des décennies, le balancier est revenu à droite. C'était Pompidou, puis Giscard d'Estaing en France. Au Vietnam, on voyait que, et surtout au Cambodge, les choses ont très très mal tourné. Ces révolutions ont donné lieu, en tout cas au Cambodge, à des massacres particulièrement effrayants. La révolution iranienne en 79 a abouti à une théocratie que personne ne souhaitait, alors qu'on a cru au début, en 79, que les ayatollahs, ça ne serait pas les ayatollahs qui seraient au pouvoir, mais le Shah parti, qu'on aurait à pouvoir une évolution de ce pays, en tout cas démocratique. Donc il y avait un très très gros découragement.
Et à cette période, comment vous réagissez justement face à ce qui se déroule justement ?
Alors je reprends, je dirais, ma plume, parce que moi au fond j'ai toujours écrit. J'écrivais de la poésie, là je me mets à écrire de la chanson, puis un roman, et aujourd'hui je suis romancière, c'est ma principale activité. Et je me dis que l'engagement peut prendre d'autres formes, que l'engagement politique, juste là, dans ces années, je crois, a paru à beaucoup de monde plus possible ou plus efficace surtout. Une impression d'impuissance.
Vous citez le Ye King, vous pourriez nous donner cette phrase, très belle phrase ?
Oui, c'est le livre des transformations chinoises. C'est une figure du Ye King. Il importe de mettre à l'abri sa propre lumière pour la protéger en vue d'une renaissance ultérieure.
Et cette renaissance, elle existe actuellement, vous trouvez, parmi ces nouveaux mouvements qui existent, que ce soit Podemos en Espagne, que ce soit en fait ces mouvements plus autogestionnaires, ou qui en tout cas cherchent une nouvelle voie, ou s'appuient peut-être sur une histoire de ce type-là qui existait dans ces années 70.
Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression que ça rebouge en Europe, exactement comme vous le dites, en Espagne avec Podemos, en Grèce avec Syriza. Et puis surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ces mouvements citoyens qui ne veulent pas se faire chapeauter par des organisations politiques rigides et organisées, qui surgissent un petit peu partout, certes à Paris, Nuit Debout, c'est un petit peu spectaculaire, mais aussi ici en Suisse. Hein.
Est-ce que vous pensez que ces mouvements peuvent exister tels quels sont, qu'ils soient structurés dans un parti, ou que des mouvements plus citoyens sont possibles actuellement, et qu'ils ont la voix, la parole, et puis qu'ils seront écoutés ?
Je pense que les réponses ne peuvent être que collectives, donc moi je n'ai pas de solution comme ça toute faite à dire voilà ce qu'il faut faire. Je soupçonne qu'une organisation, une fédération, des formes d'organisation à inventer, certes, doivent être mises en place.
Ce soir, hein, en relation avec les grèves des femmes du 14 juin 1991, pour fêter cet anniversaire, la librairie Basta organise une rencontre autour de votre livre « Radieuse matinée ». L'intitulé de cette soirée, c'est « De la ligne juste d'hier à la biodiversité politique aujourd'hui ». Que voulez-vous dire par biodiversité ? C'est vous qui l'avez choisi, cet intitulé ? Ou j'ai vu qu'il y avait cette citation dans votre livre de biodiversité politique.
Oui, c'est une formule qui est venue sous ma plume pour parler justement de ces mouvements citoyens qui peuvent rassembler des gens issus de plusieurs tendances politiques et pour qui la différence est une richesse. Alors que j'ai quand même un souvenir dans les années 70 que ceux qui avaient une autre idéologie étaient les affreux et que c'est pas possible de discuter avec eux. On coupait les cheveux en quatre, parfois sur des questions de doctrine absolument absurdes. Alors je crois que maintenant, cette biodiversité, elle m'intéresse beaucoup. Puis bon, on se réunit à Basta pour fêter cette grève des femmes, pour dire qu'on n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait non plus.
Et vous en avez parlé à la RTS de cette grève de 1991. Vous étiez déjà à la RTS à l'époque ?
Alors je travaillais à l'époque à la RTS, donc loin de faire la grève, on a pris le micro, on a fait beaucoup de reportages sur des sujets femmes. Et puis on s'est réunis quand même aussi une heure dans la cafétéria. Là, on a fait une sorte de débrayage pour discuter des problèmes des femmes dans notre entreprise qui était la RTS. Bon, c'était la Radio Suisse Romande à l'époque. parce que la hiérarchie y est très masculine, parce que les salaires et les contrats précaires, c'est plutôt pour les femmes, parce que on avait du mal à concilier vie de famille et vie professionnelle aussi dans ce milieu-là. Et voilà, ça a été intéressant parce qu'on a pu rencontrer la direction. Il y a eu quelques progrès qui ont été faits.
25 ans après, la question un petit peu banale, mais est-ce qu'il y a véritablement des progrès dans la condition des femmes ?
Je voudrais ajouter qu'une chose est très importante, et là je crois qu'il n'y a pas de progrès, mais je trouve très important que les femmes se syndiquent. Et là, je les crains un petit peu qu'il y ait plutôt moins de gens qui se syndiquent aujourd'hui qu'autrefois. Mais il y a des progrès immenses, ne serait-ce qu'avec la contraception, la libéralisation de l'avortement, une attention quand même beaucoup plus grande donnée à des horreurs comme le viol, où finalement c'était les femmes qui étaient toujours coupables, ou les femmes battues. Il y a des conceptions qui ont évolué en Suisse. Maintenant, je crois que le salaire, l'écart des salaires de manière injustifiée est toujours de 20%. Donc il y a encore du boulot à faire, et puis il y a encore du boulot à faire aussi, je dirais, sur le plan, entre guillemets, privé, au sein de la famille. Le congé paternité est de nouveau sur la table au Palais fédéral, et ça je pense que c'est aussi quelque chose qui est à quoi les hommes auraient tout à gagner.
Alors c'est vrai qu'il y aura cette soirée, le 14 juin, vous allez être en contact avec les nouveaux mouvements féministes, enfin il y en a plusieurs qui ont émergé quand même, dont Féminista qui organise des événements. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouveaux mouvements qui émergent ?
Ah mais c'est super, c'est génial, moi Féminista je les suis un peu sur Facebook, je trouve généralement très bien leurs publications. Je trouve très courageuses les femmes, même si j'étais un peu interloquée au début, mais je trouve que leurs actions sont généralement pertinentes. De toute façon, le féminisme, c'est pas quelque chose qui est homogène. Hein. Il y a beaucoup de tendances, il y a toujours eu plusieurs tendances. Donc là, il y a une espèce d'arc-en-ciel et je suis bien contente que ça continue et je suis prête à soutenir tout ça.
On va vous retrouver, Annick Main, le 14 juin à Basta, librairie Basta, au Petit Rocher 4 à Lausanne. Et c'est une discussion qui aura lieu autour des mouvements lausannois et les femmes en particulier autour de votre livre. Je vous remercie beaucoup d'être venu à Radio Django et nous présenter avec sincérité votre parcours et ce livre que j'ai beaucoup apprécié. Merci, Annick Main.
Merci à vous pour l'invitation.
Et c'est un livre à retrouver, bien sûr, à la librairie Basta au chemin du Petit Rocher à Lausanne.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Les mardis de Stéphane Venanzi, c'est des coups de cœur et des coups de griffe. L'un n'empêche pas l'autre, parfois semble-t-il, à propos d'événements culturels divers et variés en région lausannoise. S'embrouillant un peu dans ses références mythologiques, l'âge, sans doute, notre chroniqueur Stéphane a enfourché son tricycle pour traverser cet horrible quartier qu'est le Flon et s'est rendu au son de la fameuse chanson de Steppenwolf, doublant au passage des hordes de supporters avinés, irritants de joie face à des écrans géants, il s'est rendu donc à la galerie Format, là avec une délectation autrement plus subtile que celle des bas du front amoureux du ballon rond. Il a découvert la production récente de Lucie Kohler, présentée sous l'intitulé « Born to be Wild ».
En entrant à la galerie Format, l'une des premières œuvres de Lucie Kohler que l'on peut voir est une sorte de vierge à l'enfant, sur fond de tapisserie botanique criarde, au motif floral hypertrophié, telle une jungle inquiétante issue de l'imagination enfiévrée d'un moderne douanier Rousseau. Déjà tout un programme. À part qu'au lieu de tenir dévotement un bébé blond, rose et replet, censé personnifier rien de moins que le petit Jésus en personne, pas le cinéaste espagnol toutefois, plutôt le prétendu fils de Dieu, cette noble figure, l'air courroucé, serre contre son sein un petit singe, dans la main duquel gît un oiseau fraîchement décapité. L'artiste, abordant ainsi, par le recours à ce quadrumane homicide, double demeuré sauvage et envers idéal à en croire l'imaginaire collectif de l'homme prétendument civilisé, la question de l'animalité humaine. D'où, tout naturellement, le titre donné à cette exposition. Pour autant, l'animalité humaine n'est de loin pas le seul thème brassé par Lucie Collaire dans son œuvre foisonnante. Méticuleusement réalisée au crayon de couleur, en souvenir de l'enfance bien sûr, mais aussi comme un clin d'œil aux auteurs bruts ou naïfs, encore aujourd'hui massivement exclus des circuits traditionnels de l'art marchand, cette production, saturée de références aux mythologies, dont certaines s'avèrent parfaitement contemporaines, on peut ainsi, au gré des dessins, croiser pareillement Salomé, la sphinge vengeresse des Grecs ou un animal de compagnie à la gueule improbable, actuelle vedette des réseaux sociaux. Cette production, disais-je, de par la multiplicité des citations picturales et autres qui la constituent, pose aussi un regard ironique sur les notions de culture haute ou basse qui ont longtemps agité nos sociétés hyper hiérarchisées. Et elle le fait avec un humour grandement appréciable. À la semaine prochaine.
Les mardis de Stéphane Venanzi.
Oui, on arrive déjà au terme de cette 59e édition du Grand Direct de Radio Django, avec ce soir trois sujets au sommaire de ce Grand Direct spécial 25 ans de lutte de la grève des femmes pour le droit et l'égalité. Nous avons parlé ce soir de la grève de 1991 et logiquement celle de 25 ans plus tard, celle de cette année. Nous avions le portrait de Mariella Muri et puis Radieuse Matinée, le livre de Annick Maheim. Et puis on n'oublie pas bien sûr le rendez-vous hebdomadaire, les mardis de Stéphane Venanzi. Voilà, c'est le programme que nous vous proposions ce mardi 14 juin sur Radio Django. Tous ces sujets sont à retrouver en podcast sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, émission un petit peu spéciale puisque ce sera les fêtes de la musique. Effectivement, nous serons le 21 juin. Nous recevrons des groupes. Ils joueront tout spécialement pour vous en direct et en public depuis le studio de Radio Django ici à Pôle Sud. Je vous donne donc rendez-vous pour un nouveau Grand Direct mardi prochain à partir de 18h. Une émission comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud. D'ici là, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes et à mardi prochain.
Retrouvez cette chronique en podcast sur django.fm.